Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du Rendez-vous des Audacieux. Aujourd'hui, j'ai pour invité Emanuela. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast.
Bonjour et merci pour ton invitation.
Je t'ai invitée car je te connais depuis longtemps. Je t'ai connue grâce à la vidéo de Human of Strasbourg qui m'a beaucoup inspirée et je crois qu'elle date de... Il y a quand même un bail. Je t'ai aussi découvert...
Oui, il y a un moment, c'est vrai.
Je t'ai aussi découvert avec Do You Miam, le blog... que tu avais créé, et que tu as encore.
Oui, tout à fait.
Puis les grandes girls, et d'ailleurs, je vais avoir Caroline en invité prochainement. Tu as aussi fait des vide dressing, tu as vécu à Berlin depuis combien de temps? 2 ans, tu es à Berlin?
Ça fait 2 ans et demi.
2 ans et demi. Et en 2020, tu as créé Bonjour sale pute.
Dis bonjour sale pute, ouais.
Oui, donc on va en parler un peu de tout ça ensemble.
Ok.
Tu as lancé et mené beaucoup de projets. Et en fait, beaucoup de personnes aimeraient se lancer, mais ils ont du mal à transformer l'essai. Et est-ce que ça a été ton cas?
Bah, je pense qu'avant de lancer n'importe quel projet, on se pose beaucoup de questions. On hésite, on se dit qu'on n'est pas légitime, on se dit que bon, ça existe déjà, pourquoi le refaire? Et au final, je pense que de toute façon, tant qu'on n'aura pas essayé, on ne pourra pas savoir. Donc en gros, ce que je conseille aux personnes qui ont des projets, c'est de se lancer. Parce qu'au final, ça ne fera que leur permettre d'avancer dans leur vie, de pouvoir s'accomplir. Et puis même si leur projet ressemble à quelque chose qui existe déjà, au final, ça permet d'apporter encore une pierre à un édifice qui existe déjà. Donc ça peut que être bénéfique. Donc en gros, moi, j'encourage toujours mes proches ou moins proches qui ont des projets et qui hésitent à y aller parce que on n'a qu'une vie. Donc s'ils le font pas maintenant, ils le feront jamais.
On dit que c'est dur de passer la première marche. Est-ce que toi, tu la passes rapidement ou tu te poses plein de questions, tu fais plein de plans sur la comète?
Je pense que ça dépend de ce que tu considères comme étant la première marche. Je sais pas, en fait. À chaque fois que j'ai eu envie de faire quelque chose, je l'ai fait. Des fois, ça s'est cassé la gueule. Il y a des choses qui ont marché, d'autres qui ont moins marché. Mais j'ai toujours été très, très fan de challenge. J'ai toujours eu envie de relever des défis. Donc, dès qu'il y en a un qui se présente à moi, j'y vais. Et puis si ça marche, tant mieux. Et si ça marche pas, c'est pas grave. Donc je pense que la première marche, il faut la monter parce que l'escalier peut être un peu long.
Il y a eu donc des moments où tu as eu quand même des petits doutes.
Oui, forcément, on doute toujours parce qu'on ne sait jamais comment les gens vont réagir. On ne sait jamais si notre projet il est assez abouti. On ne sait jamais si quelqu'un l'a déjà fait ou pas. Et au final, le doute, c'est quelque chose qui permet de te remettre en question et qui te permet de t'informer davantage sur le projet que tu veux mener sur ce qui existe déjà. Et je pense que le doute, c'est quelque chose de très bénéfique.
Tu as déjà eu des projets qui n'ont pas abouti ou que tu regrettes de ne pas avoir commencé?
Ouais, j'ai des projets qui n'ont pas forcément évolué dans le temps, dans le sens où après, je me suis concentrée sur d'autres choses. Je ne sais pas si j'ai des choses qui n'ont pas marché. Là, comme ça, de tête, je n'ai pas forcément un souvenir par rapport à quelque chose qui n'aurait pas marché. Mais il y a des choses que j'ai abandonnées dans le temps, par exemple, parce que j'avais envie de me concentrer sur autre chose ou parce que mon excitation sur ce projet s'est estompée. Voilà.
Et par exemple, pour Do You Miam, que tu as rebaptisé, pour faire quelque chose de plus global, je pense, comment t'es arrivé à passer de Strasbourg à plusieurs villes? J'avais vu qu'il y en avait un peu partout, des ambassadeurs.
Ouais, exact.
Et même à...
Do You Miam, en fait, je l'ai lancé toute seule. Donc effectivement, à l'époque, ça s'appelait Strasmiam. Et puis au final, je me suis dit que ça pouvait être sympa de le développer à d'autres villes. Et j'avais des personnes qui écrivaient dans différentes villes. Et puis du coup, après, j'ai commencé à gérer aussi la partie berlinoise. Pour le moment, j'ai mis Do You Miam un peu en stand-by, donc je l'alimente de temps en temps, mais ce n'est pas forcément ma priorité. Je me suis même déjà demandé est-ce que je ne revendrai pas le compte à quelqu'un qui a le temps de s'en occuper. Ouais, c'est un projet qui a le mérite d'exister, qui est vraiment chouette, où je me suis vraiment beaucoup amusée. Et la vie a fait que maintenant, ça ne fait plus forcément partie de mes priorités.
Est-ce que c'était ton premier projet ou c'était les vide dressing d'abord?
Ça s'est lancé 1 an avant les vide dressing, mais ce n'était pas mon premier projet à Strasbourg. Le premier projet que j'ai lancé à Strasbourg, c'était les speed dating colocations, où j'organisais des speed dating entre différents étudiants qui cherchaient à se mettre en colocation ensemble. Et ça a été, j'étais la première à le faire, je crois, à Strasbourg. Et après, il y a eu des sites internet comme Speed Dating Coloc qui sont sortis. Et voilà, ça par exemple, typiquement, c'est l'exemple d'un projet que j'ai lancé et que j'ai finalement laissé tomber parce qu'il y a des gens qui ont fait ça de façon plus professionnelle par la suite et que ça ne m'excitait pas plus que ça de le faire à ce niveau-là. Donc voilà, comme quoi finalement nos projets peuvent donner des idées aussi à d'autres et ça peut générer des belles choses derrière.
J'étais pas au courant de ce projet du tout.
Parce que j'en ai pas vraiment parlé sur les réseaux sociaux, étant donné que c'est quelque chose qui date d'il y a vraiment très longtemps.
Et ça t'a donné envie de faire d'autres choses, de créer d'autres choses ?
Oui, ben je crée constamment de nouvelles choses. C'est vraiment quelque chose qui m'anime. Je sais que je m'ennuie très 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 vite, donc j'ai régulièrement besoin de lancer de nouvelles choses. Et ouais, j'ai déjà lancé beaucoup de projets, et c'est aussi la raison pour laquelle je suis freelance, ce qui me permet d'être assez libre dans mon temps et de pouvoir bosser sur plusieurs projets à la fois.
Et t'es freelance dans tout ce qui est communication marketing, c'est ça ?
Ouais, globalement, je pense qu'il n'y a pas forcément de... Je ne sais pas si je pourrais donner un cadre, mais ça englobe tout ce qui est la communication digitale, le marketing digital, l'événementiel, les formations aux réseaux sociaux, etc. Donc c'est vraiment un gros pan du marketing.
Parce que je pense que tu arrives mieux à gérer tes journées que quand tu étais salarié, quoi.
Bah forcément, j'arrive à allouer plus de temps à différents projets ou à l'animation des réseaux sociaux, qui sont quand même quelque chose de très important pour les différentes activités que j'exerce. Après, quand j'étais salariée, ben, c'était mon week-end qui passait sur mes projets professionnels, enfin sur mes projets pro et perso. Donc bon, en général, quand on est multi-projet, on arrive toujours à trouver le temps de s'organiser, mais c'est vrai qu'en étant freelance, ça permet d'avoir un petit peu plus de temps et de pouvoir s'organiser de façon un peu moins stressante.
Mais justement, quand je vois tout ce que tu fais, je me demande, mais comment tu fais pour t'organiser ?
Je sais pas si j'ai un tips de comment est-ce qu'il faut faire pour s'organiser. C'est plutôt naturel, en fait. Comme je te le disais, depuis que je suis gamine, j'ai vraiment toujours été multi-projet. Et c'est quelque chose qui m'a toujours animée. Donc, au final, j'ai toujours réussi à trouver un équilibre. Après, j'ai un agenda hein, où je remplis mes différents créneaux pour faire telle ou telle tâche. Et j'essaye de m'y tenir. Puis, il y a des jours où c'est un peu plus speed et il y a des jours où c'est un peu plus calme. Donc, au final... Ce que j'ai pas réussi à faire la veille, je le fais le jour même ou le jour d'après. Et voilà, mais en tout cas, j'essaie de m'organiser quand même avec des to-do list à rallonge à la maison, des rappels sur mon téléphone et un agenda bien, bien coloré.
Et c'est pas dur avec justement les réseaux sociaux, les gens qui t'écrivent, les notifications, etc., de se plonger pleinement dans une tâche.
J'ai coupé mes notifications Instagram, donc je ne les reçois pas sur mon téléphone en temps normal. Je les vois que quand j'ouvre mon application et c'est très très bien comme ça, parce que sinon il y en a trop et je trouve que c'est anxiogène et que c'est vraiment contre-productif. Donc au final, quand j'ai besoin de me concentrer, je n'ouvre pas mon application et j'arrive à me mettre à 100% sur mon job.
Ouais, parce que c'est impossible à gérer de se remettre dans ce que tu fais quand tu vois un message ou une notification.
Non, c'est pas impossible, mais Instagram, c'est un piège. Donc en fait, tu vas répondre à un message, puis en sortant du message, tu vas tomber sur ton fil d'actualité. Et si tu suis des comptes qui t'intéressent, tu vas tomber sur un post intéressant, et ainsi de suite. Et tu vas passer 20 minutes sur le compte, enfin sur l'application, alors que tu étais en train de faire autre chose. Et au final, ça te fait perdre plus de temps qu'autre chose, même si tu auras appris, que tu auras lu du contenu intéressant. Il vaut mieux déconnecter ces notifications vraiment si tu as besoin de te concentrer sur autre chose. Et de déconnecter tes notifications en général, parce que c'est pas parce qu'on est sur un réseau social qu'on doit être à la disponibilité à chaque seconde à quelqu'un. Pour les gens qui t'envoient des messages ou qui commentent, c'est un réseau social, mais c'est pas une obligation de vie. Donc ça, c'est assez important quand même.
Ouais, c'est ça, en fait, t'es pas redevable des followers.
Alors je sais pas si c'est une question d'être redevable, c'est plutôt une question de je suis disponible quand moi je le décide, et pas quand les abonnés le décident. Et au final, après, je prends quand même 1 à 2 heures par jour pour répondre à tous les messages que je reçois. Donc en général, les gens n'attendent pas longtemps, sauf si ça tombe dans les messages en demande, et là je les vois pas forcément. Mais globalement, je suis quand même assez réactive, mais je réponds aux messages quand moi je décide d'y répondre.
Est-ce que tu peux nous parler d'un échec ?
Ouais, je suis sur l'écriture de 2 livres. Un livre qui traite du harcèlement dans l'espace public et un projet collectif. Donc je peux pas trop en parler parce qu'on est c'est encore un peu secret, mais c'est un livre qui sortira fin d'année et on est plusieurs personnes à écrire dedans. Et dans ce livre, j'ai abordé notamment la place du féminisme dans le couple hétérosexuel, et ça m'a ravivé des souvenirs d'expériences de couple que j'ai pu vivre dans ma vie qui sont très douloureuses. Et j'ai pris conscience de certaines choses par lesquelles je suis passée, Et je dirais pas que c'est un échec, mais c'est des moments compliqués et ça, c'est quelque chose qui te construit, c'est quelque chose qui te permet d'avancer. Donc j'ai eu un gros moment de bad en février où c'était très compliqué pour moi de gérer ces émotions, de gérer toute cette prise de conscience. Et il m'a fallu, je pense que je suis pas encore complètement sortie de ça, mais il m'a fallu une bonne dizaine de jours pour me remettre sur pied. Et maintenant, je peux que aller de l'avant, mais voilà, je pense qu'on passe toujours par des périodes un petit peu compliquées en fonction de ce qu'on fait. Et souvent, notre métier nous ramène à des choses qui sont un peu difficiles à vivre dans notre vie privée. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent, quoi.
Ouais, c'est à raviver des brèches que tu avais vécues, peut-être que tu as enfouies.
Tout à fait, où j'ai fait un déni, où j'ai essayé de me dire que c'était pas grave, et au final, je me suis rendu compte que ça a eu un impact sur toute ma vie. Et que ça a eu un impact sur la personne que je suis, et ça a clairement un impact sur mon militantisme au quotidien.
Et t'arrives à tout doucement avoir de la gratitude pour ces relations, ou pas du tout?
Je sais pas si on peut parler de gratitude.
Si j'ai pas eu ça, je pourrais pas en parler, etc. Si j'avais pas eu toutes ces expériences, je serais pas la personne que je suis actuellement, et j'aime qui je suis, donc au final, gratitude, ou pas du tout, y a aucune place à la gratitude.
Je pense qu'on ne peut jamais ressentir de gratitude face à de la violence. On passe par des expériences qui nous construisent, qui sont plus ou moins difficiles à vivre. Et je ne vais pas remercier cette personne d'avoir été violente envers moi. Parce que grâce à ça, aujourd'hui, ça me rendrait légitime sur mon combat. Pas du tout, je pense que... Même si j'avais pas vécu ça, j'aurais quand même été légitime à mon combat et j'aurais aimé ne pas passer par la case victime pour pouvoir en parler. Mais c'est la vie. Je ressentirais sûrement jamais de gratitude par rapport à une expérience comme ça. Je pense que je pourrais ressentir le besoin de pardonner au plus profond de moi pour pouvoir avancer. Et je sais que dans la gestion des émotions et dans le stress post-traumatique, quand tu vis des choses un peu compliquées, Tu as besoin au bout d'un moment de pardonner, de te pardonner à toi-même et de pardonner aussi à la personne qui a pu t'infliger des choses compliquées parce que sinon tu continues à avoir en toi de la haine et c'est quelque chose qui te brise à l'intérieur. Donc c'est des choses importantes qui viendront avec le temps et je pense que un jour je sourirai jamais en y repensant évidemment, mais je pourrais avancer plus sereinement, quoi. Alors, juste une chose, je pense pas qu'on pardonne l'acte, parce que c'est de la violence. On pardonne la personne, parce qu'un acte, au final, c'est quelque chose d'abstrait. On pardonne à la personne qui nous a infligé les choses, que nous, on puisse se reconstruire. On le pardonne pas pour que l'autre personne ait bonne conscience. D'ailleurs, souvent, quand on pardonne, la personne n'est pas au courant. On le fait à l'intérieur de nous, pour nous. Donc, c'est plus quelque chose qui va nous permettre d'avancer dans notre vie de façon plus sereine et d'avoir... probablement plus confiance en nous. Mais j'ai pas de réponse à ça parce que je suis pas encore passée par cette étape. Donc si tu veux, on en reparlera quand j'aurai senti que j'ai passé cette barrière.
Justement, j'aimerais qu'on parle de ton gros projet actuellement, enfin pour moi, qui est le plus visible de l'iceberg. C'est « Dis bonjour, sale pute ». Je me rappelle de cette vidéo que tu avais faite en expliquant rapidement ce qui s'était passé. Donc c'était quoi, c'était un homme, c'était quoi, t'attendais à la gare ou routière ou je sais plus?
Ouais, c'est ça, j'attendais à la gare que ma mère vienne me chercher, j'étais rentrée quelques jours en Alsace et il y a un type qui est venu me harceler et qui m'a regardé avec son regard lubrique et qui a essayé des tentatives d'approche complètement déplacées et je lui ai fait comprendre assez fermement que j'étais pas intéressée, et puis il a pas accepté, il a fini par m'insulter de sale pute. Et j'en ai parlé sur mon compte Instagram après, et effectivement, j'ai reçu en 24 heures, j'ai reçu à peu près 200 témoignages de personnes qui avaient vécu des choses similaires, que ce soit à cette gare ou ailleurs d'ailleurs. Et c'était que des femmes, et je me suis couchée avec tous ces messages qui m'ont brisé le cœur, et le lendemain, je me suis dit, faut que je fasse quelque chose. Et je pouvais pas mettre ça sur mon compte Instagram perso parce que ça n'avait aucun sens. Et donc j'ai créé Dis bonjour sale pute, mais vraiment juste pour recenser les témoignages. Et je me suis pas du tout imaginé que le compte allait prendre cette place dans ma vie, en fait. Et je me suis pas du tout imaginé qu'il allait être suivi par autant de gens. Sinon, je pense que j'y aurais réfléchi à deux fois. J'aurais peut-être pris un peu plus le temps de me préparer parce que là, ça m'a un peu tombé dessus. Donc voilà la petite histoire de la création.
C'est vrai que ça a pris une ampleur. Il est passé à 100 000, mais rapidement, c'est-à-dire qu'il y a, un besoin derrière d'en parler.
Ah bah, il y a un gros besoin de dénoncer. Il existe des plateformes et des comptes Instagram qui l'ont déjà fait, notamment Paytashneck, tenue par Anaïs Bourdet, qui est un peu moins actif depuis quelques mois parce qu'elle a besoin, elle a stoppé en fait l'animation du compte parce qu'elle a fait un burn-out militant, ce que je comprends, qui risque peut-être de m'arriver aussi un jour. C'est des sujets très difficiles, c'est compliqué d'être, de recevoir ces messages de personnes qui sont dans des situations de stress et de peur atroce et elles attendent de toi de l'aide. Donc du jour au lendemain, j'ai été propulsée de une militante, une féministe classique à quelqu'un qui répond à des centaines et des centaines de messages de personnes qui sont dans un désarroi fou. Et j'en reçois tous les jours et les abonnés augmentent tous les jours parce que c'est une thématique vraiment, vraiment importante qu'il faut lutter contre et que les victimes ont besoin de se décharger, qu'elles ont besoin de parler de ce qui leur arrive. Et souvent, je reçois beaucoup de messages de victimes qui n'en ont jamais parlé à leur entourage parce qu'elles n'ont jamais eu le courage. Ils ou elles n'ont jamais eu le courage. Et à travers le compte Instagram, quelque part, ça leur permet de se libérer.
Et comment tu gères ça, d'avoir autant de messages de ce style tous les jours? Parce que, en fait, j'ai regardé beaucoup au début et ça m'a fait peur. Je suis arrivée dans un truc anxiogène. Je me disais, je me suis pas fait trop agresser bizarrement, tu vois. J'ai pas eu. Enfin, c'est bizarre de se dire ça. Ça va, moi, je me suis pas fait trop agresser. Tu vois, je me dis dans quel mood on commence à partir. À se dire, non, ça va, je suis une femme, mais on m'a dit deux, trois trucs, ça passe. Et je me dis que c'est un mindset assez bizarre de relativiser ça. Et j'arrivais plus à regarder les messages parce que moi, je commençais à faire un stress. À me dire, oh putain, mais je ne sais plus aller dehors en fait, on va m'agresser. Et je ne sais pas comment toi, tu arrives à prendre du recul, tu vois, sur les messages qu'on t'envoie, ou peut-être que tu n'arrives pas, je ne sais pas.
Non, c'est très compliqué, j'avoue que je suis rentrée dans une phase d'hypervigilance où je suis à l'aguet de tout ce qui se passe, à l'affût de tout ce qui se passe plutôt. Je regarde tout le temps autour de moi, je me retourne. Bon, c'est vrai qu'à Berlin, c'est différent parce qu'ici, je sais pas pourquoi, mais les hommes sont éduqués différemment. Donc ici, les femmes, on est beaucoup plus libres dans la rue, d'être qui on veut, de se balader à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Évidemment, je reste quand même toujours un peu méfiante. Là, par exemple, je dois aller à Paris la semaine prochaine et je stresse déjà parce qu'à chaque fois que je vais à Paris, j'ai des mauvaises expériences. Donc ouais, c'est anxiogène, c'est difficile. Et je suis en train de... Enfin là, l'assaut est quasi monté, ça m'a pris des mois, mais l'association DBSP est quasi montée et je suis déjà en contact avec une petite équipe qui va prendre une partie du travail en charge à mes côtés, donc modérer les commentaires, répondre aux messages, animer le site internet et on va aussi créer une application cette année pour pouvoir accompagner les victimes. Donc je serai plus toute seule à le gérer. Là aujourd'hui, j'essaye de me mettre, comment dire, quand j'ouvre un message, j'essaye de le lire comme une fiction. De pas le prendre à cœur, de pas considérer que c'est un humain qui m'écrit, parce que sinon je pleure à chaque fois que j'ouvre un message. Et c'est contre-productif parce que les personnes qui me trouvent, elles ont besoin d'aide. Donc si moi je commence à être trop sensible, je vais pas pouvoir leur apporter une bonne aide et voilà. Donc c'est très difficile et c'est pour ça que je te disais que si j'avais su ce qui allait me tomber dessus, je me serais préparée différemment et j'aurais probablement lancé le compte plus tard ou peut-être jamais, parce que je me serais dit non, mais j'aurais jamais les épaules de le faire. Alors que maintenant, c'est là. Et donc, maintenant, faut que je gère d'une manière ou d'une autre. En tout cas, je ne regrette pas du tout. C'est une expérience. C'est un combat auquel je prends part grâce à ce compte. Et je serais honorée et contente si j'arrive à aider des gens et si j'arrive à faire avancer les choses. J'aurais réussi ma vie, je pense. Donc, je regrette pas du tout. Et au final, je suis contente de pas l'avoir non plus su avant, parce que j'aurais sûrement eu peur de me lancer. Et peut-être que... Enfin, je reçois quotidiennement des messages de personnes qui me disent que grâce à ce compte, elles se sont rendues compte qu'elles sont pas seules. Et des hommes qui me disent qu'ils se sont rendus compte que leur comportement était complètement déplacé dans la rue et qui s'étaient pas du tout rendus compte que les nanas... en ont marre d'être constamment harcelés dans la rue, qu'on leur fasse des compliments. On s'en fout des compliments, laissez-nous tranquilles, quoi. Et il y a des mecs qui m'écrivent et qui me disent, ben, je pensais pas du tout qu'arrêter une fille dans la rue, essayer de la draguer, lui dire qu'elle est belle, ben ça peut la saouler. Alors ça saoule pas tout le monde, il y a des personnes que ça dérange pas, mais dans la grande grande majorité c'est relou, on n'en peut plus. Et je pense que le compte Instagram a sûrement permis, enfin je sais que le compte Instagram a permis des prises de conscience, que ce soit du côté des victimes ou des harceleurs. Donc au final, il se passe déjà des choses, donc c'est trop cool.
Mais il y a une vidéo que j'avais vue, moi elle m'a énervée au plus haut point, c'est ils avaient pris un homme, ils l'avaient maquillé, etc., habillé en femme, et quand il y a eu la parole de cet homme pour dire ouais, « les femmes elles se font agresser, etc., mal parler, j'ai testé », là on le croit. Je me dis oh, « donc il faut ça, il faut déguiser un homme et qu'il fasse genre il est une femme pour qu'on nous croit ». Ok, on en arrive là.
En fait, le problème avec cette vidéo, c'est que ce type, j'admire, enfin, je respecte tout à fait le projet de la vidéo. Je trouve que c'est cool de faire ce genre de choses parce que ça peut ouvrir les yeux à certaines personnes. Par contre, ce mec n'a jamais, pendant une seule seconde, ressenti ce que c'est être une femme dans la rue. Il savait, au fond de lui, qu'il avait les compétences physiques pour se défendre. Il savait qu'il était filmé de part et d'autre par des complices, donc il n'était pas seul. Y a beaucoup trop de choses qui font qu'au final, cet acteur, ou je ne sais pas si c'est un acteur ou pas au final, mais cette personne, ce mec, ne peut même pas prétendre une seule seconde dire qu'il a compris ce que c'était d'être dans le corps d'une femme. Parce qu'au final, l'expérience qu'il a vécue, moi je veux bien aussi me balader dans la rue et avoir toujours deux complices autour de moi. Ah ben, je suis bien, hein, j'aurais pas peur dans la rue du coup. C'est-à-dire qu'il y a toujours deux personnes qui sont là au taquet pour moi, au cas où il se passe quelque chose. Puis j'aimerais bien aussi avoir le même corps musclé et fort qui me permettrait de me sentir plus en sécurité. Tu vois ce que je veux dire ? J'admire ouais. Vraiment l'idée de la vidéo, je trouve que c'est vraiment chouette. Et quand j'avais vu la vidéo sortir, je me suis dit « Ah, c'est cool !» c'est cool c'est de faire ça, mais les autres hommes ne le feront pas, et on peut jamais se mettre au final à la place d'une femme, parce qu'on pourra jamais ressentir ce que c'est d'être une femme, comme moi je pourrais jamais ressentir ce que c'est d'être un homme privilégié dans notre société et avoir le pouvoir sur tout et d'être dominant. Je saurais jamais ce que c'est, parce que je resterai toujours une femme malgré mon militantisme et malgré le fait que je bosse et que je suis indépendante, etc. Donc c'est très bien de faire des expériences comme ça, mais au final, elles ne sont pas forcément constructives. Je ne sais pas si tu vois où est-ce que je veux en venir. Je ne suis pas du tout en train de dénigrer le projet. Hein. Je pense juste qu'on ne peut jamais se mettre à la place d'une femme et on ne peut jamais se mettre à la place d'un homme non plus.
Après, je ne dénigre pas le projet, mais enfin, il m'énerve parce que je me dis il faut attendre la parole d'un homme qui te dise « j'ai vécu, c'est vrai » pour qu'on en parle, en fait.
Ouais, c'est vrai que c'est un très, très gros problème. C'est comme aussi quand tu parles avec un ou plusieurs mecs, hommes, et que tu leur parles de féminisme, et ils te disent « Oh là là, tu saoules avec tes histoires de féminisme et tout. » Tu leur dis « Ouais, mais tu sais, si c'est ta mère qui se fait violer dans la rue, si c'est ta meuf qui se fait tabasser, si c'est ta sœur qui se fait frotter, tu réagis comment ?» Et là, évidemment, ils se sentent concernés, ils disent « Ah ouais, j'avoue, nanana. » Et en fait, allô, est-ce qu'on est toujours obligé de vous mettre en situation personnelle pour que vous preniez en compte le sérieux de ce combat ? Est-ce que vous n'êtes pas capable de vous rendre compte tout seul que ce combat est légitime et qu'il existe pour des raisons qui sont vraiment importantes ? Moi, c'est ça qui m'embête, en fait. C'est le fait que tant qu'on ne sensibilise pas les hommes avec une personne de leur entourage, ils ne se sentent pas concernés. Et ça, c'est vraiment... Enfin, oui, on en revient parce que tu parles du mansplaining. Nous, les nanas, on peut dire 150 fois qu'on est fatigué des hommes dans la rue, qu'on s'est fait agresser, qu'on s'est fait violer, qu'on en a marre des inégalités dans la société. Mais quand un mec va le dire, il va être différemment écouté. Moi, je le vois aussi en soirée, quand je parle de féminisme, j'ai l'attention approximative des mecs, l'attention approximative de mes copines, parce qu'elles ne sont pas forcément toutes engagées, à mon plus grand désarroi. Et par contre, quand mon mec va parler de féminisme avec eux, ils vont être beaucoup plus à l'écoute. Parce que soi-disant, les mecs ont des codes pour se parler entre eux. C'est des choses qui me dépassent. Franchement, j'ai vraiment du mal avec ce système et cette façon de faire. Mais voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Le mansplaining dans toute sa splendeur.
C'est fou, mais est-ce que Tu dis pas « je suis féministe, mais » pour, tu vois, que les gens, ils se calment. Parce que j'ai l'impression que quand tu dis que t'es féministe, les gens, ils se lèvent, ils font « ah ouais, non, mais voilà, t'es une chieuse, etc. » Tu vas ramener ta gueule en mode « girl power, on veut tous vous dominer, vous n'aimez pas les mecs. » Enfin, tout de suite, ils vont dans l'extrême. Est-ce que toi, tu dois te justifier pour ralentir le débat?
Franchement, à partir du moment où je suis obligée de me justifier, j'ai pas besoin de parler avec ces personnes. Parce que si ils n'ont pas compris, ils ou elles, hein, si elles, on va parler en inclusif, n'ont pas compris l'importance du combat féministe, qui est de stopper une société patriarcale dans laquelle les hommes dominent. Voilà, en gros, c'est ça. Hein. Et puis, nous donner notre liberté, l'égalité des droits et l'équité dans la société. Si les gens ne comprennent pas ça, et que pour eux, les féministes, elles veulent prendre la place des hommes, franchement, je suis désolée, mais on va pas pouvoir discuter, parce que ça veut dire que là, j'ai toute une éducation pédagogique à refaire sur des bases qui sont censées être acquises. Les gens qui disent « ah, mais t'es une féministe relou », ben, la conversation s'arrête ici, en fait. Je vois pas l'intérêt de parler avec des gens qui vont avoir ce genre de discours. C'est fatigant de devoir expliquer à chaque fois pourquoi on est féministe. C'est fatigant de comprendre, enfin, de voir que les femmes, des femmes, même des femmes de mon entourage, se considèrent comme non-féministes. C'est vraiment des... Il y a des amis avec lesquels je parle plus de féminisme. Voilà, c'est comme ça. Parce que ça m'épuise et parce que j'ai vraiment pas le courage d'essayer de les persuader qu'ils ont une place importante à tenir dans ce combat. Ils ou elles, encore une fois. Donc moi, les gens qui me disent « Ouais, les féministes, elles veulent détruire les hommes. Ouais, les féministes, elles veulent se venger. » Franchement, j'ai pas la force. Je laisse ma place à quelqu'un d'autre.
Bah, j'allais rebondir là-dessus par rapport à tes amis. Est-ce que t'as arrêté de parler tout court à des gens à cause de ça ?
Je dirais pas que j'ai arrêté de parler totalement à des gens, parce qu'en général, quand on n'est pas d'accord sur certaines choses du féminisme, dans la globalité, mes amis sont aussi mes amis, parce qu'on partage des points de vue similaires, et on est tous mes amis sont d'accord sur le fait que la place de la femme dans la société n'est pas celle qu'elle devrait avoir. Et donc, globalement, on est quand même sur le même état d'esprit. Après, il y a des gens avec qui je parle plus du tout de féminisme, et j'aborde plus du tout ces sujets parce qu'ils ont ils me disent des choses qui me dépassent, quoi. Comme dire que les féministes, c'est des hystériques parce qu'elles crient et parce qu'elles montrent leur sein. Franchement, moi, c'est quand on commence une discussion comme ça, je lâche l'affaire, en fait. J'ai même pas envie de devoir expliquer, parce qu'en général, quand tu te permets de dire qu'une féministe, elle est hystérique parce qu'elle revendique ses droits, t'es tellement dans un autre monde que je vais pas perdre du temps à essayer de t'expliquer quelque chose qui, au final, ne te conviendra pas, parce que c'est pas ta façon de voir les choses. Donc, ouais, en général, il y a des amis proches avec lesquels je parle plus de féminisme parce que ça m'épuise. Et même des femmes, hein, qui pensent que les féministes, c'est des tarés. Je déteste dire ça.
Justement, tu disais, par rapport au fait qu'on sexualisait énormément le corps de la femme, et toi qui a fait beaucoup de marketing quand même, on est d'accord qu'en 2021, et enfin plutôt en 2020, parce que 2021, je sais pas, on utilise encore beaucoup la femme, le corps, etc., pour vendre.
Tout à fait, c'est un combat d'ailleurs que je veux mener aussi, la sexualisation du corps, vendre des produits en montrant des seins, vendre du désherbant en montrant un cul, tout ça, c'est des choses qui sont effectivement pas normales, quoi. Et il y a un énorme travail à faire là-dessus, et tant qu'il y aura des publicités comme ça, le corps de la femme sera sexualisé.
Mais c'est les femmes aussi qui acceptent. Je vois plein de modèles photos qui acceptent complètement d'être nues avec un sac pour leur cacher les parties génitales et qui sont très OK là-dessus.
Comme je te le disais tout à l'heure, tout le monde n'est pas engagé par le combat féministe, et ça concerne pas que les hommes, ça concerne aussi beaucoup de femmes. Après, j'aimerais juste faire une parenthèse sur les photos de nues hors
oui.
Produit. Je me permets juste d'en parler parce que une femme qui poste des photos d'elle nue ou des photos dénudées, c'est une femme qui va à l'encontre du féminisme. Pas du tout. On a tout à fait le droit de poster des photos de nous nues, que ce soit artistique ou on s'en fout au final. C'est quelque chose qui. Il faut arrêter de dire que ça va à l'encontre du féminisme. Je voulais juste placer ça comme ça. Et par contre, effectivement, oui, il y a des campagnes de communication où, oui, c'est des vraies nanas qui sont utilisées pour diffuser du marketing sexiste. Donc il y a un travail à faire sur l'ensemble de la société. Il n'y a pas que les hommes qui sont anti-féminisme, il y a aussi des femmes.
Parce que ça a quand même progressé quand on voit des pubs de 1990 ou 2000, genre je pense à la pub Choupa Choups, quand elle fait des bulles, ses seins, ils dégonflent et ils regonflent, ou la pub Axe, quand les femmes courent vers le monsieur qui met du déo, alors voilà, ça s'est calmé.
Bon, ça existe encore, j'ai vu passer une pub Axe il n'y a pas très très longtemps d'ailleurs. Mais ouais, non mais c'est vrai qu'on n'est pas sur les mêmes publicités, il n'y a plus le gros cliché de la ménagère en train de faire à manger. Enfin, ça existe encore, mais pas autant, je vais dire. Ça évolue, le milieu de la communication évolue. Il y a énormément de personnes qui luttent pour désexualiser le corps de la femme, pour mettre des couples homosexuels, pour mettre des personnes transgenres, pour inclure un maximum de personnes différentes dans la publicité. Donc ça prend énormément de temps. Encore, j'en parlais avec mon mec il n'y a pas longtemps, il me disait qu'il avait vu une pub où c'était un couple de deux femmes homosexuelles, je ne sais plus si c'était pour un canapé ou n'importe, je ne sais plus ce que c'était, mais il m'a dit, putain, ça m'a surpris, parce que j'ai tellement pas l'habitude, et j'ai trouvé ça trop cool, et à ce moment-là, je me suis dit, mais pourquoi il n'y en a pas plus? Et bon, là, on dépasse la sexualisation du corps de la femme, hein, mais le fait de pouvoir inclure dans la publicité aussi des gens différents et pas le couple classique, la blonde, le brun et leurs deux enfants en très bonne santé. C'est aussi un gros travail à faire en plus du corps de la femme qui est vraiment utilisé comme un objet marketing.
Et en plus, dans ces familles-là, ils sont tous beaux, ils ont tous une belle voiture, une maison impeccable.
Ouais, ils ont tout. Et toi, t'es là, tu te remets en question. Si tu manges des pâtes pour le troisième jour de la semaine, t'as toujours pas mis de rideau à tes fenêtres. Voilà quoi. C'est le pouvoir de la publicité sur la déprime mondiale.
Et moi, je veux savoir, ça fait quoi d'avoir écrit, j'allais dire son premier livre, mais deux livres.
Franchement, je sais pas, parce que pour le moment, il est sur un document. Et il passe de mes mains à la maison d'édition, à la correctrice, à l'illustratrice, etc. Donc en fait, il voyage pas mal. Et je pense que quand je le verrai imprimé, ça va me faire quelque chose. Là, pour le moment, je réalise pas du tout. En plus, il sera officiellement lancé le 9 juin. Donc j'ai encore un petit peu de marge. Tu sais, j'ai le temps de faire un déni total de ce qui est en train de se passer. Et je pense que le jour où je l'aurai vraiment dans les mains, là, il va se passer quelque chose. Et là, je vais vraiment prendre conscience de tout ce qui vient de se passer, parce que c'est des semaines et des semaines, des mois de travail acharné, épuisant. C'est vraiment très, très, très fatigant d'écrire un livre pédagogique. C'est pas écrire un roman où tu racontes l'histoire que tu veux et personne ne peut te blâmer pour ça. C'est écrire un livre pédagogique où tout ce que tu écris peut être mis en question. Donc, c'est vraiment un travail de recherche et de précision ultra rigoureux, et c'est épuisant. Je suis éclatée, genre j'ai juste besoin de prendre des vacances, couper de tout à la plage pendant genre 3 semaines et revenir pour la promo du livre, ce qui n'est pas possible, mais c'est épuisant, vraiment c'est épuisant, et je suis vraiment fière d'avoir réussi à accomplir ça dans ma vie, parce que c'était un rêve de gosse d'écrire un livre. Bon, petite, j'espérais écrire des livres sur des chiens. Au final, j'ai écrit un livre sur comment éviter les chiens dans la rue. On va dire ça comme ça.
C'est pas mal.
Mais ouais, je suis très très fière de moi. Je le dis avec de la modestie aussi. Parce que voilà, je pense que je serai jamais 100% satisfaite de ce que j'ai fait. Parce que c'est comme ça. Mais je suis vraiment fière de moi et j'espère vraiment que ce livre permettra à toutes les personnes qui l'auront entre les mains de grandir et de se sentir peut-être un peu rassurée.
Tu l'as écrit en combien de temps ? Le premier est vraiment pas celui avec le collectif.
Bah, j'ai commencé à écrire les deux au même moment et j'ai commencé en septembre-octobre à peu près. Et j'ai envoyé le manuscrit pour relecture normalement finale là il y a une semaine.
Tu l'as écrit rapidement, il y a des gens, il faut 2 ans pour écrire un livre. Bon, après, c'est pas un roman aussi.
Ouais, voilà, c'est ça. Je pense que c'est... En vrai, j'aurais aimé avoir plus de temps, mais pour moi, l'idée aussi, c'était que le livre sorte avant l'été, parce que en été, c'est le moment où on a chaud, on met moins de vêtements, et les, 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 les victimes sont beaucoup plus embêtées, enfin harcelées et agressées pendant la période estivale. Et j'avais envie que ça puisse sortir avant pour qu'on puisse le lire avant de devoir être face à tout ça. Et que ça puisse nous donner de la force et que ça puisse donner du courage aux personnes qui seront face à des situations d'agression. Donc je me suis un peu mis la pression toute seule, mais c'est pas grave. Challenge accepted.
J'avais un conseil à donner qu'on m'avait transmis quand j'étais allée faire en fait mes études à Nice, et Nice c'est pas ultra à côté, tu vois. Et en fait on m'a dit, et je l'ai toujours eu en tête, hein, ça fait genre 8 ans, quand tu marches dans la rue, sache que les loups, comment elle m'avait dit ça ? Elles s'approchent que des bêtes blessées. Donc, soit pas une bête blessée, soit un loup. Et ça fait que je suis hyper fermée du regard. Genre, je souris pas, j'ai pas la joie de vivre quand je marche. Genre, quand je marche, je pense que t'as plutôt peur parce que j'ai un regard déterminé et je regarde. Mais personne. Et en fait, ça m'a vachement protégée. Et j'espère que ça va continuer. Donc, je sais pas si toi, t'as des tips bizarres qu'on ne devrait pas avoir, ou des réflexes bizarres.
Bah, le problème avec ce que tu dis, ça veut dire qu'on doit...
Ouais, c'est chiant.
On doit adapter notre comportement et donc faire une croix sur la liberté d'être qui on veut dans la rue. Si on suit ta logique, que je comprends... Hein,
j'ai pas dit que c'était logique, hein.
Ouais, non, mais si on suit la logique de ta copine, moi, que je peux comprendre, parce que ça peut fonctionner. Il y a des livres qui parlent du body language, marcher la tête haute, ouais, rapidement. T'as pas le temps, tu traces ta route. Ok, bah, moi, je suis pas comme ça. Moi, j'ai envie de marcher chill dans la rue, et j'ai envie de regarder les oiseaux voler, et j'ai envie de kiffer le soleil. Je vais pas adapter mon comportement pour éviter de me faire agresser. Enfin, j'ai pas envie de le faire, mais peut-être que dans une situation donnée, je vais le faire pour éviter de me faire emmerder. Et c'est trop nul, parce que si on suit cette logique, ça veut dire qu'on accepte de mettre notre liberté dans les mains de ces personnes. Suivez votre instinct. Quand vous êtes dans une situation compliquée, suivez votre instinct. Écoutez-vous. Si votre corps vous dit « marche comme ça », marchez comme ça. Si votre corps vous dit faites demi-tour, n'allez pas, n'essayez pas de vous faire des challenges avec vous-même. À un moment, protégez-vous, restez en sécurité. Je trouve ça juste dommage qu'on en finisse à donner des conseils comme ça, de genre marcher de façon assurée, fermez le regard, ne soyez pas accessible. Parce qu'au final, ça ressemble pas forcément à toutes les personnes, ça ressemble pas aux gens, ça ressemble pas à un comportement normal dans la rue. Et donc, si on doit toutes et tous adopter des comportements en fonction de l'autre, personne ne sera heureux dans sa vie, parce que du coup, on va jouer des rôles. Mais en même temps, je peux comprendre ce conseil, et je l'entends, et je peux pas dire que ce que ta copine t'a dit, c'est nul. Parce que ça a probablement fait ses preuves et que ça a probablement permis à elle et à d'autres personnes d'éviter des situations compliquées. Donc voilà, l'idée c'est que avec les années, on arrive à avoir un level d'éducation sur la place de la femme dans la société, sur le respect des genres en général, et le respect des humains, qui permettra de pas avoir à donner ce genre de conseils et qu'on puisse vivre. Je sais, c'est utopique, mais qu'on puisse vivre dans une société respectueuse de l'ensemble des humains. Et j'ai envie de croire que dans quelques générations, ça peut vraiment arriver. Donc, ce sera peut-être les enfants de nos enfants qui commenceront à voir ça. Mais je sais que nous, notre génération, on va éduquer ces enfants correctement. Enfin, je ne dis pas qu'on a été élevés incorrectement, mais je sais que notre génération va élever nos enfants avec peut-être le féminisme au cœur de leur éducation, le respect des genres, accepter que tout le monde est différent, ne pas se moquer de quelqu'un, d'un garçon qui aime les garçons, d'une fille qui aime les filles, ne pas se moquer d'une fille qui se sent comme un garçon, et vice-versa. Et sincèrement, je pense qu'on pourra arriver à une société de respect, mais ça va prendre beaucoup de temps. Donc j'espère juste qu'on donnera plus ce genre de conseils un jour, parce que ce sera tout à fait normal d'être la personne que tu veux être dans la rue. Venez tous à Berlin, putain, c'est tellement mieux ici, quoi.
Tu me donnes envie d'y aller, hein, c'est la vérité.
Ben, j'ai envie de rentrer en France parce que ma famille et mes amis me manquent. Mais franchement, j'ai envie de rentrer auprès de mes amis, j'ai pas envie d'être en France, parce qu'en France, à chaque fois que je rentre en France, je suis face à des situations de harcèlement ou d'agression dans la rue et ça, c'est épuisant, quoi. Je me demande qu'est-ce qu'on a loupé dans notre pays pour qu'on en arrive là, quoi.
Quel est ton plus grand défaut ?
Je suis têtue. Mmh. Voilà. Et il faut que tout le monde autour de moi l'ait, sinon je me braque.
Ça va, c'est pas trop dur à gérer ?
Si, c'est très très dur, mais pas pour moi, pour les gens avec qui je parle.
Moi, je suis très ok avec ça.
Moi, je suis très ok avec ce dont je suis convaincue. Hein.
C'est normal.
C'est plutôt aux autres de s'armer de courage dans ces situations. Mais je sais admettre si je me suis trompée après aussi. Ça peut me prendre quelques minutes, slash heure, slash jour. Mais j'admets en général si je me suis trompée.
Et dans tout ce que tu fais, est-ce qu'il y a un truc que t'aimes pas du tout faire ? Genre que tu détestes ? C'est toujours pareil, la compta, ça compte pas.
La compta, mais ça me dérange pas trop de faire la compta parce que du coup, je me dis, ah, je vais pouvoir m'acheter un peu plus que des pâtes le mois prochain. Non, la compta me fait plaisir en général parce que c'est aussi l'aboutissement de mon travail. Donc voilà, un truc que j'aime pas faire dans mon travail, il n'y a rien, je crois. Il n'y a rien que j'aime pas faire.
D'accord, ben, parfait.
Désolée d'avoir cassé ta question.
Ah non, mais pas du tout. Hein. D'habitude, j'ai les mêmes réponses, donc je dois les arrêter. Mais la compta, l'administratif, c'est non. C'est trop facile.
Non, ça ne me dérange pas.
Et est-ce que tu as une anecdote honteuse à nous partager ?
Je ne l'assume pas du tout. Quand j'avais 18 ans, je voulais revendre mon iPhone pour m'en acheter un autre. Et je l'ai mis sur le bon coin. Et j'ai accepté de le vendre à un papa qui voulait l'acheter pour sa fille en Côte d'Ivoire. Et il m'a pris par les sentiments et il m'a dit « Mais est-ce que tu peux m'envoyer le téléphone ? Et moi, je t'enverrai l'argent après. » Et j'ai envoyé le téléphone et j'ai jamais eu l'argent.
Mais ça, non, mais rien n'allait là-dedans, en fait.
Mais c'est mon côté trop sensible. Je suis tombée dans le panneau. Et quand je l'ai raconté à mon père après, qui était celui qui était censé m'aider à financer mon nouveau téléphone, avec ma participation de ma revente de mon téléphone, il m'a dit « Bah, tu vois, je t'aiderai pas. Ça te servira de leçon. Maintenant, tu te débrouilles. » Ouais, donc ça, c'est vraiment genre un des trucs dont j'ai le plus honte parce que genre aujourd'hui, tu reçois souvent des spams avec des mails, des histoires rocambolesques où quand je cherche des apparts, souvent, tu tombes sur des annonces, des apparts qui coûtent rien, mais avec des photos magnifiques, tu sais. Mais je pense que sans cette expérience, j'aurais pu tomber dans d'autres panneaux par la suite. Voilà, c'est mon côté très, très, très ultra naïve. Je suis ultra naïve. Donc voilà pour la petite anecdote.
Et ma dernière question, c'est quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné ?
Qu'est-ce qu'on m'a donné ? Je crois que ma maman, elle me dit tout le temps de m'aimer et d'avoir confiance en moi. Et je pense que c'est vraiment important. C'est important de s'aimer et d'aimer ce qu'on est et d'aimer la personne qu'on devient chaque jour. Et d'avoir aussi confiance en soi, que ce soit pour être une personne intègre, pour avoir des relations équilibrées, pour pouvoir tout niquer au travail. Ouais, je pense que c'est important de s'aimer et d'avoir confiance en soi. Et c'est quelque chose que ma maman me dit très régulièrement. Et comme les mamans, c'est les meilleurs conseils du monde, ben, je dirais que je lui décerne la palme d'or du meilleur conseil.
D'accord. C'est vrai que c'est un beau conseil et qu'on oublie.
On ne se met jamais au centre de nos priorités.
J'ai posé à peu près toutes les questions que je voulais te poser.
Ok, cool. J'espère que j'ai bien répondu et que ça t'a convenu. Et que je n'ai pas fait trop de bruit aussi.
Je te remercie d'avoir participé à mon podcast.
Merci à toi, j'ai trop hâte de l'écouter et bon courage pour le montage.
Merci.
Salut.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Mais avant de partir, tu peux prendre juste 2 minutes pour soutenir mon podcast en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast si tu as un iPhone. Sinon, tu peux me suivre sur Spotify. Ça me permettrait de me faire connaître en remontant, tu vois, dans l'algorithme. Ça toucherait plus de personnes et on serait une plus grande communauté à m'écouter. Tu peux aussi le partager à un ami. Peut-être que ça l'inspirera, peut-être qu'il en aurait besoin aujourd'hui pour être reboosté. Et si tu veux être au courant des prochains épisodes, tu peux t'inscrire à ma newsletter. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt.